Chanter souvent ce petit chœur dans les réunions d'évangélisation, Jésus libère, Jésus guérit. J'aimerais que nous le chantions en réalisant que cette affaire de guérison et de libération n'est pas réservée qu'aux pécheurs. Beaucoup de chrétiens ont besoin de libération, de victoire, de prendre conscience de l'état dans lequel ils sont. Et j'aimerais que nous chantions ce petit chœur, Jésus libère, Jésus guérit. Peut-être que vous n'avez pas envie de le chanter, ce n'est pas grave, mais en tous les cas, vous pouvez peut-être fermer vos yeux et écouter. Il peut le faire. On avait rajouté une deuxième strophe à une époque. Il veut le faire. Ce n'est pas grave, ne le cherchez pas. Il veut le faire. Mes frères et sœurs, nous avons des cultes. Nous avons des réunions. Nous vérifions à chaque réunion cette paix, cette communion fraternelle, l'immense privilège de prendre la Sainte-Seine, je ne sais pas si vous le réalisez. La grâce que Dieu nous a donnée pour venir, d'avoir des véhicules, d'avoir le métro, d'avoir la santé, d'avoir des habits. Vous savez, il y a des églises, je pense à une province en Inde, quand on trouve quelqu'un avec une Bible, il perd son travail, les enfants sont déscolarisés et on leur rase la maison. Nous avons un immense privilège dans notre pays. Et il faut tout faire pour que rien n'attriste le Saint-Esprit. Je crois que ce culte devrait nous aider à faire quelques progrès, car certains d'entre nous ne faisons pas de progrès. Hélas, certains régressent. C'est pour ce qui explique qu'il y a tant et tant de rétrogrades dans nos églises, parce qu'ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Je vais être sévère ce matin, je vais vraiment faire attention. Je sais que je dois être sévère, parce qu'il y a des chrétiens qui sont en train de se perdre. Vous savez, avant de chanter, on va lire un verset. On va lire quelques... Je vous encourage à les noter, peut-être pas celui-là, parce que celui-là, il est pour les pasteurs. Mais les autres. Dans l'épître de Jacques, regardez bien ces versets. Je sais que vous les entendez, je sais que vous les connaissez, mais il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Et cette semaine, j'ai été poussé dans la prière à exhorter les chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Il y a des chrétiens, ils lisent la Bible le dimanche, quand le pasteur... Bien sûr, le présente. Mes frères et sœurs, si vous saviez la responsabilité des pasteurs, je ne sais pas si vous priez pour les pasteurs, pour les jeunes pasteurs, comme Michael qui rentre dans le ministère, ou comme Olivier qui est en formation pastorale, je ne sais pas si vous priez pour nous. Mais si vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'on va lire. Je ne sais pas si vous réalisez, il y en a d'autres versets, mais je vous le lis parce que tous les versets qu'on va lire ce matin, vous voyez, c'est 11h20, c'est 10h20. Je voudrais qu'on ait 10 minutes pour répondre à cette prédication. Mais vraiment, il y a beaucoup de gens, vous venez par habitude, vous venez parce que vous aimez le Seigneur, mais il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas d'obéissance. Ça va aller très mal lorsque vous allez passer devant Dieu. Et moi, ce matin, reprenez-moi si je suis trop sévère. Enfin, je sais que quelqu'un le fera. Le Seigneur le fera. Je sais que mon épouse le fera. Mais je sais que je dois être sévère. Et la Bible nous demande de considérer la sévérité du Seigneur. Mes frères et sœurs, je sais que ça va être sévère, mais je vous demande d'être sérieux. Nous ne sommes pas là en parlant de projets, de choses humaines, de la construction d'une maison ou d'une piscine, tout ça c'est secondaire. Tant mieux si vous avez la piscine. On est là pour le salut des âmes, pour votre éternité. Pour votre éternité, avec Dieu ou sans Dieu. Les églises rendent un témoignage lamentable. Les églises rendent un témoignage d'apostasie. Je ne parle pas que des églises évangéliques. Quand les gens parlent des églises, on parle, est-ce qu'il faut que les femmes prêchent? Est-ce qu'il faut donner la Sainte-Seine aux homosexuels? Enfin, je veux dire, voilà ce que les païens entendent de l'église. Et je pourrais les multiplier. Et tout ce que je dis, ça va être pesé. Mes frères et sœurs, les gens, ils doivent voir Jésus-Christ crucifié sur la croix. C'est le seul moyen d'être sauvé. Et c'est le seul moyen pour les chrétiens d'aller jusqu'au bout. Regardez ce texte, c'est vraiment pour les pasteurs. Jacques chapitre 3, verset 1er. C'est un texte que j'adresserai dans une pastorale pour exhorter les pasteurs, mais je pense que les chrétiens doivent aussi comprendre, c'est dans la Bible, donc c'est aussi pour tous les chrétiens. Jacques chapitre 3, verset 1er. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Voilà ce qui nous attend. Les pasteurs, les prédicateurs, les enseignants, les évangélistes, nous serons jugés sévèrement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et je ne sais pas, mais peut-être que ça ne vous préoccupe pas. Tant mieux. Mais moi, ça doit me préoccuper. Parce que je sais qu'il faut se dire certaines choses à des chrétiens qui sont embrouillés dans leur vie charnelle, alors que nous avons un Dieu qui libère, un Dieu qui guérit. Vous le croyez? Chantons-le, prions-le pendant ce chant. Comme je l'ai dit, si vous n'avez pas envie de chanter, ce n'est pas grave. Mais qu'on sorte délivré, libéré. Parce que ça dépend de nous, mes frères et sœurs. Le Seigneur, il a déjà tout payé pour qu'on soit libéré. Amen. Jésus libère, Jésus guérit, il peut le faire pour vous aussi. De votre chaîne, de vos douleurs et de vos chaînes, Jésus est vainqueur. Amen. Vous le croyez? C'est bien. Nous allons donc ouvrir la parole de Dieu. Je vais vous donner une dizaine de textes minimum. Je vous encourage à les noter pour que vous puissiez, chez vous, dans vos cultes personnels. Une jeune fille me disait cette semaine, « Monsieur Go, il m'a fallu attendre plusieurs années de conversion pour ouvrir ma Bible. Maintenant, je lis ma Bible, j'ai la paix, j'ai envie de servir le Seigneur. » Vous vous rendez compte? Plusieurs années de conversion, de vie d'église. Parce que quand on est vraiment, vraiment, vraiment converti, je crois qu'on a envie de lire la parole du Seigneur. Quand vous êtes amoureux, je pense que vous avez envie de lire la lettre de celle qui vous a écrit. Oui ou non? Alors, on va parler des textes. Certains, je vais les commenter. D'autres, je ne les commenterai pas. Mais mes frères et sœurs, vous savez, je vais dire une expression qui n'est pas bien, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Je n'ai pas envie de rire. Je sais que grande ma responsabilité ce matin. Je le sais. Je rendrai compte à Dieu pour cette prédication, comme pour toutes d'ailleurs. Mais je vous demande, s'il vous plaît, d'écouter. Vous vous rendez compte qu'il y a des églises, pendant les prédications, il y en a qui s'envoient des textos. Je ne sais pas, non, mais si vous vous rendez compte. Oui, considérons la sévérité du Seigneur, la douceur aussi. Je vais employer de la douceur. Je sais que ça a été ma difficulté, ça. Mais je veux vraiment que vous compreniez certaines choses. Tout d'abord, je vous demanderai de méditer chez vous le psaume 107. Faites-le, 107. Dans ce texte, au verset 20, il y a une bénédiction qui correspond au cantique que l'on vient de chanter. Mais il faut le méditer, ce chapitre. Il ne faut pas le lire. Il parle énormément de l'âme qui est malade, de l'âme qui est angoissée, de l'âme qui est dans la détresse, de l'âme qui est dans la faim, qui souffre. C'est un cantique qui nous montre combien une âme peut souffrir. Comment une âme peut être en détresse, vous le réaliserez. Parce qu'il y a eu un mépris de la parole. C'est écrit au verset 11, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles, ils avaient méprisé le conseil. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne vont pas bien. Il y a un mépris, ils veulent une belle prédication, mais ils ne veulent pas la parole de Dieu. Vous voyez, ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Alors qu'au verset 20, il est dit, il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Voyez au verset 15, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Verset 16, il a rompu les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ça fait allusion aux chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Moi, je vous le dis, mes frères et sœurs, je vous le dis vraiment. Vous pouvez tous me reprendre la sortie si j'ai été trop sévère. Vous pouvez tous le faire, je l'accepterai. Mais si vous ne lisez pas votre Bible, votre âme est morte. Vous le lirez, l'état dans lequel ils sont. Nous avons un Dieu qui, par sa parole, il guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Que son nom soit béni. Mais Dieu peut changer. Des fois, on dit, oui, Dieu change les déserts en étang. Regardez ce qu'il est capable de faire aussi. Verset 33. Il change les fleuves, il les change, oui. En quoi ? En désert. Les sources d'eau, en terre desséchée. Le pays fertile, en pays salé. À cause de quoi ? À cause de la méchanceté. Après, c'est vrai, au verset 35, il change le désert en étant la terre aride en source d'eau, etc. Dieu sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Mes frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas dans quel état est votre âme. Je sais que des milliers de gens écoutent des prédications sur Internet. Je sais que ce n'est pas que pour l'église de Sainte-Agne. Mais n'empêche que si le Seigneur m'a mis ce message à cœur, ça me fait de la peine de ne pas l'avoir eu, peut-être reçu plus tôt, parce que c'est peut-être moi aussi qui n'étais pas suffisamment prêt. Mais je sais, mes frères et sœurs, que le Seigneur va bientôt revenir. Il va chercher son épouse. Il ne prend pas l'église, il prend l'épouse. L'épouse, ce sont les chrétiens qui se sont préparés. Et si moi, je ne vous aide pas à vous préparer d'une manière sérieuse, consciencieuse, joyeuse, parce que tout ça se fait dans la joie, quand on a affaire à Dieu, je pense qu'il y a vraiment de la joie. Mais mes frères et sœurs, ce psaume, s'il vous plaît, vous demandez à Dieu, Saint-Esprit, éclaire-moi vraiment, que je comprenne mes angoisses, ma souffrance, peut-être qu'il y a dû à ce mépris, tu me donnes des conseils, je ne les accepte pas parce que ça vient de l'homme. Eh oui, ça vient de l'homme. Monsieur Gauss, c'est qu'un homme. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Et l'affaire est bouclée. Oui, je sais bien. Mais c'est facile à justifier la désobéissance en disant, mais moi, le pasteur, c'est comme bonhomme. Si le pasteur n'est pas inspiré, vous avez raison. Mais si ça vient de Dieu, est-ce que vous vous rendez compte l'état spirituel dans lequel vous vous mettez? Et je veux bien croire, je sais, j'en ai honte, que je n'ai pas toujours été inspiré, que j'ai peut-être prêché parfois avec ma tête et mon intelligence et ma connaissance. Mais je sais aussi quand même qu'en me tenant devant Dieu, le Seigneur peut m'utiliser. Alors on va lire maintenant deux ou trois textes dans le Nouveau Testament. Vous savez qu'on a parlé souvent de ce verset « Délivre-moi du mal ». C'est une prière que le Seigneur Jésus nous enseigne à faire, à vivre dans le Notre Père, « Délivre-moi du mal ». Alors nous allons lire trois ou quatre textes, le premier dans Romains au chapitre 8. Alors, si vous étiez aux études il y a quelques années avec M. Ollet, il nous a enseigné quelque chose qui est très important, c'est que quand on lit un texte, à lire le contexte. Et je vous assure que c'est important de comprendre le contexte. Romains, chapitre 8, versets 5 à 9. C'est un texte qui nous parle des choix que nous faisons en fin de compte. Parce qu'en vérité, c'est un choix. Vous auriez pu choisir de rester au lit parce que la paresse aurait pris le dessus, à moins que vous soyez bien sûr malade. Combien de chrétiens sont paresseux ? Je ne veux pas revenir sur le don que j'ai donné, mais mes frères et sœurs, combien de chrétiens sont perdus à cause de la paresse, parce que la paresse engendre le découragement, c'est évident, le découragement engendre l'angoisse, et l'angoisse engendre l'éloignement avec Dieu. Romains chapitre 8, verset 5. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. » Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Deuxième texte. Un peu plus loin, dans Galates, je vais prendre deux ou trois textes où l'apôtre Paul parle de la vie selon la chair, ou selon l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 18, jusqu'au verset 25, c'est exactement la même chose, dit différemment, avec des précisions pour expliquer vraiment ce qu'est la chair. Ne confondez pas ce qui est humain et ce qui est charnel, de grâce. Beaucoup de chrétiens sont devenus ou légalistes d'ailleurs, ou laxistes, parce qu'ils ont confondu l'humain du charnel. Il n'y a pas de honte à être un être humain. Mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Galates chapitre 5, verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Je le relis, mes frères et sœurs, parce que quand même, il faut être sérieux. Les œuvres de la chair, elles sont évidentes. Il n'y a pas besoin d'un grand esprit de discernement. Il y a des problèmes dans l'Église, croyez-moi, il faut du discernement. Il y en a. Et ça nécessite tout un travail, le discernement. On l'a vu jeudi à la formation. Mais il y a des choses qui sont évidentes. Elles devraient vraiment être évidentes. Les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Vous savez, quand on vient à l'imposition des mains, pour être délivré de son sale caractère, c'est une forme de magie. On attend que le Seigneur fasse ça par miracle. Vous allez voir que la chair, ce n'est pas par l'imposition des mains. Vous allez le voir. Les jalousies, où ça en était la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies. Les querelles. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. C'est sûr que quand une église n'est pas, quand les chrétiens ne sont pas unis, il y a vite fait d'avoir des groupes. Enfin, quoi qu'un groupe, c'est pas. Vous voyez, l'erreur ? Un groupe, c'est pas un péché. Si 3 ou 4 jeunes. Vous voyez, je veux vous expliquer les choses. Si 5 ou 6 jeunes aiment le tennis, ils vont faire du tennis. Est-ce qu'ils sont sectaires ? On est mis à part parce que. Ben non, vous voyez, c'est normal que 3 ou 4 jeunes aillent faire du tennis. Vous voyez, ou 4 jeunes, je sais pas moi. Il y a des sectes dans l'église. Mais ça, c'est pas une secte. Les sectes, c'est quand les gens ne sont plus unis et que commencent à être divisés au niveau de la doctrine. Oui, c'est important. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, pas l'exubérance, la joie intérieure, cette satisfaction intérieure. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont, regardez bien, la première étape pour être délivrés, c'est la crucifixion de la chair, avec ses passions et ses désirs. Est-ce que quelqu'un peut se crucifier lui-même ? Non, mais au calvaire, le Seigneur peut s'en charger. On y reviendra si on a le temps. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Colossiens, juste après, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes mort au péché, bien sûr. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Deuxième réponse pour la victoire. Faites donc mourir. Oui, ce n'est pas une question de prière ou de délivrance par l'imposition des mains. Faites donc mourir. N'alimentez pas ce qui dans vos membres est terrestre. Ce n'est pas diabolique, ça. Ça peut le devenir. C'est humain, c'est terrestre, c'est la vie. N'allez pas chercher des démons là où il n'y en a pas. Il y a des cas où il y en a, ça c'est clair. Ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, comme quoi il y en a de bons, la cupidité, qui est une idolâtrie. L'amour de l'argent, c'est un truc de fou. D'ailleurs, l'amour de l'argent, c'est quoi ? C'est la racine de... C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Troisième solution. Mais maintenant, aujourd'hui, vous voyez quelle grâce. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Vous voyez la solution ? C'est moi qui prends la décision d'y renoncer. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes en dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Vous voyez, troisième ou quatrième solution. Vous êtes en dépouillé. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, alléluia, dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pourrions voir ce que nous avons vu la semaine dernière, quand même, il y a ce verset qui met, que j'ai à cœur. C'est un petit peu plus loin, c'est dans le psaume. Oui, c'est dans le psaume 109. Regardez, je veux le prendre, je ne voulais pas le prendre, vous voyez, pour ne pas perdre du temps, mais on ne perd pas du temps quand on lit des textes bibliques, Gérard, que tu es bête. Psaume 109, verset 17. Psaume 109, verset 17. Les choix que nous faisons. Mes frères et sœurs, ce verset, ce matin, j'étais en prière, je l'ai reçu vraiment. Il faut que nous comprenions bien que notre vie est faite de choix. Toujours on choisit. Dès qu'on se lève le matin, c'est un choix. De se lever plus tôt ou plus tard, c'est un choix. Tout est fait de choix. Et regardez, parce que des fois on se demande, oui, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais vous avez l'explication des choix. Psaume 109, verset 17. Il aimait la malédiction. Ah bon ? On peut aimer le mal ? Est-ce qu'on peut aimer le mal ? Eh bien oui. Quand on cherche, quand on reste dans la colère, dans l'irritation, on aime le mal. Vous pouvez le dire comme vous voulez. Je peux vous dire que vous aimez le mal. Réfléchissez-y. Ça, je l'ai peut-être dit un peu trop abruptement. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce qu'on a un Dieu qui délivre. Qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction. Tiens donc, c'est possible. Eh bien oui, c'est Dieu qui le dit. Qu'elle s'éloigne de lui. Vous pourrez également, dans la foulée, méditer le psaume 109, qui est aussi important, bien sûr, comme tous les textes de la parole de Dieu. Tout ce que je vais vous dire, c'est pour le salut de nos âmes. Vous voulez être prêt quand Jésus reviendra ? Vous voulez être prêt ? Beaucoup de chrétiens qui écouteront certainement ce message ne sont pas prêts. Donc, je vais vous aider. Il y a des comportements, des attitudes, des réactions qui montrent que nous ne pouvons pas être bénis. Dieu fait grâce, c'est clair. Dieu fait miséricorde et Dieu pardonne, c'est clair. On va voir un peu plus loin quand même qu'il y a des choses à ne pas dépasser. Mais quand même, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Assemblée dans laquelle Dieu nous a placés, nous devrions tous nous préoccuper, en tous les cas, de notre Assemblée, au minimum. Et de pouvoir nous dire, tiens, mais est-ce que certains comportements dans ma vie empêchent la bénédiction ? Parce que moi, je peux vous prêcher pendant 3 mois, je sais le faire, je l'ai déjà fait, et j'aime le faire, sur la communion avec Dieu. Vous aimeriez que je fasse 3 mois d'études sur la communion avec Dieu ? Oui. Mais à quoi ça sert la communion avec Dieu ? Si les comportements nous empêchent d'être exaucés ? Si notre comportement nous empêche d'avoir cette bénédiction, si mon comportement fait que j'ai toujours un mauvais témoignage, et il faudrait que je commence à m'interroger sérieusement, est-ce que je ne suis pas une pierre d'achoppement pour les gens que je côtoie ? On peut être une pierre d'achoppement. Ça va vite. Je vous le raconte parce que vous savez, je ne suis pas meilleur que vous, ne vous inquiétez pas. Il y a 24 ans, on m'avait demandé d'aller faire un séminaire en Polynésie. Et on m'a demandé d'aller prêcher dans une ville où j'avais été militaire à cette époque-là. J'avais été militaire, j'étais engagé dans l'armée, et j'étais dans une compagnie de combat, c'était un truc sérieux, grave même. Et quand j'y suis retourné, donc 14 ans après, j'étais pasteur, et on m'a demandé d'aller dans cette ville de Taravao pour prêcher un dimanche. Quand j'ai vu ça sur mes invitations, j'ai téléphoné de suite au mess des officiers et je dis voilà, je suis un ancien soldat militaire et j'aimerais venir vous rencontrer, est-ce que c'est possible ? Donc ils m'ont accepté. Après le culte, j'ai été au mess des ces officiers et comme je n'avais pas ma voiture, j'étais en Polynésie, j'ai demandé à un frère qui m'accompagne. J'y étais, c'était conduit par Dieu. Et je suis arrivé, je dis voilà, bonjour, je suis pasteur, tatati, on a discuté pendant une demi-heure, et comme j'avais vraiment soif, ils m'ont dit qu'est-ce que vous voulez boire ? Et comme ils étaient en train de boire une bière pression, et je n'avais pas bu depuis le matin, il fait très chaud en Polynésie, et à un moment donné, je savais qu'il ne me fallait pas la prendre. Je savais. Ça a duré, vous savez ce que c'est, la fraction d'une seconde. J'ai senti, je n'ai pas entendu de voix. Je savais qu'il ne me fallait pas la prendre. J'aurais dû demander une limonade. Et je l'ai pris. 6 mois après, on m'a demandé d'y retourner pour faire un séminaire parce que les anciens voulaient que je sois le pasteur de l'église. Dieu a permis qu'on y retourne. L'épouse de ce frère m'a dit, « Monsieur Go, je peux vous voir ?» Elle me dit, « À cause de vous, mon mari est tombé dans l'alcoolisme. » Il a dit, « Monsieur Go, il a bu une bière, moi je peux en boire. » Mais le problème, c'est que lui, à la place d'en boire une, il a bu une caisse. Vous comprenez, mes frères et sœurs ? Vous allez me dire, « Oui, mais c'est pas... » Oui, mais moi, je me suis déculpabilisé. Ce matin, j'ai téléphoné, oui, parce que j'ai prié pour ça. J'ai téléphoné au pasteur de Papeete pour qu'il me donne l'adresse de son épouse pour lui demander pardon. Parce que vous allez... Bien sûr que moi, j'ai vite tranquillisé ma conscience. Je me suis dit, de toute façon, ce n'aurait pas été moi, ça aurait été un autre. Oui, on a vite fait. Mais ça ne fait rien. On peut scandaliser les gens. Je dis ça parce que j'en ai honte. Ça fait 24 ans. Mais je le réglerai. Ce matin, je me suis occupé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un chrétien, il a le souci de rendre un bon témoignage. Oui ou non? Il a ce fardeau. Il est intelligent, il demande l'intelligence. Il dit, mais Seigneur, mais montre-moi, est-ce que mon comportement, celui que j'ai actuellement, pas celui que j'avais quand j'étais bouillant, aujourd'hui, est-ce que mon comportement... Écoutez, mes frères et sœurs, répondez au Seigneur, pas à moi. Est-ce que mon comportement m'approche de Dieu ou m'éloigne de Dieu? C'est pas le bout du monde. Est-ce que je suis en train de m'approcher de Dieu? Est-ce que je redeviens charnel? Est-ce qu'on peut redevenir charnel? Beaucoup de chrétiens se trompent. C'est écrit, on en a parlé la semaine dernière, donc j'y reviens pas. Beaucoup de chrétiens se trompent par rapport à leur comportement et le justifient. Elle le justifie en disant, mais si tu savais les combats que je mène en ce moment, eh bien écoute, tu ferais pas mieux que moi. Vous avez vu cette malhonnêteté? Si tu savais ce que je traverse en ce moment, eh bien tu ferais pas le malin. Moi, c'est pour ça que je suis en colère et j'ai raison d'être en colère. On a entendu, ne riez pas. On a entendu de ce genre de propos, que c'est triste. Que c'est triste. Beaucoup de chrétiens au nom du diable. Ah, le diable, excusez-moi, ne pensez pas que je me fais l'avocat du diable. Mais il a bon dos, le diable. Il a bon dos, le diable. Quand toute notre désobéissance est justifiée par le diable. Ah, c'est pas moi, c'est l'ennemi. J'étais désagréable avec ma femme. Oh, mais c'est pas moi, moi j'aime ma femme, c'est l'ennemi. Il essaie de détruire notre foyer. Ah ouais? Vous croyez que ça passera, ça, devant Dieu? Ça passera avec moi, vous inquiétez pas, moi je connais mes limites. Et je sais où je dois m'arrêter. Mais avec Dieu, ça passera pas. Ne vous imaginez pas un instant que ça passera avec Dieu. Au nom du caractère. Ah mais moi j'ai un caractère, écoutez. Et puis si tu savais l'enfance que j'ai eue? Je l'ai entendu plusieurs fois, même ici. Oh mais si tu savais l'enfance que j'ai eue, si tu savais, toi t'as pas eu la même enfance. Vous savez, on a tous nos casseroles. Hein. Le résultat, de toute façon, le résultat, il est toujours le même. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait souvent dans le village où j'étais, ils repeignaient sur place les vents, dans les lieux publics. Et ils mettaient un petit panneau à côté, peinture fraîche. Il y a des gens qui le voyaient, des gens qui ne le voyaient pas. Mais si vous ne l'aviez pas vu et que vous vous asseyez sur le banc, c'est pas parce que c'est involontaire qu'il n'y a pas les taches dessus. C'est pareil avec Dieu. On y reviendra, j'espère, sur le péché involontaire et sur le péché volontaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de chrétiens? Bien sûr qu'il y a un combat. Bien sûr que l'ennemi essaie de nous aveugler et que si vous en êtes là, laissez-moi vous dire que l'ennemi vous a aveuglé. Je reviens sur la paresse parce que je me sens poussé. Je me sens poussé. Il y a des chrétiens qui sont en train de mourir spirituellement. La paresse. Veillez-y, frères et sœurs. Veillons-y. Oui, il y a des combats, mais combien de chrétiens combattent le mauvais combat? Paul dit au jeune pasteur, combat, le bon combat. Moi, je crois qu'il y a un bon combat, parce que c'est Dieu qui combat pour nous. C'est le Seigneur qui combat pour nous. J'obéis, rien ne fait obstacle à mes prières. Et Dieu combat pour moi. Oui, je suis dans une situation difficile. Oui. On m'a parlé mal. Lisez les psaumes qui tournent. Alors vous allez voir autour du 107 et du 109. Et vous allez voir combien David était ennuyé avec des frères. Regardez comment Joseph a été ennuyé avec ses frères. Mais même en prison, Dieu était avec lui. Et peut-être qu'en parenthèse de cette prédication, ça vaudrait peut-être la peine de se poser la question. Oui, je suis peut-être dans l'épreuve, mais est-ce que j'ai l'approbation divine? Est-ce que, Seigneur, tu es avec moi? Ah, mais le Seigneur, il est avec toi, ne te casse pas la tête. Le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais, mais je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Parce que le Seigneur, il peut nous résister quand même. Il peut nous résister. Combien de chrétiens combattent contre la chair et le sang? Combien de chrétiens sont épuisés et épuisent les autres? Vous le savez ça, moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu. De jouer la comédie, pas la comédie, je ne suis pas un comédien. Mais à l'église, bien sûr, de faire, de paraître le bon pasteur et à la maison, de fatiguer ma femme et mes enfants. Peut-être que vous ne l'avez jamais expérimenté. Est-ce qu'on peut jouer la comédie à l'église? Je me rappelle une fois, il y avait une femme de pasteur, ça s'est passé à l'île Maurice. Pendant le culte, pendant que le pasteur prêchait, je vous dis ça pour détendre un peu, pendant que le pasteur prêchait, la femme, elle arrive avec des bassines, des casseroles, elle les met sur une table. C'est une histoire vraie, je l'ai entendue en convention. Mais ce pasteur regarde sa femme. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il demande toute l'église, elle n'en pouvait plus sûrement. Elle a dit, ben, j'ai remarqué qu'à l'église, tu es toujours gentil avec moi. Et qu'à la maison, tu es désagréable. Donc je viens faire la cuisine à l'église. C'est une histoire vraie. Beaucoup de chrétiens n'ont que l'apparence de la piété. Pourquoi ils n'ont que l'apparence de la piété? Qu'est-ce que c'est qui fait la force de la piété? Parce qu'on ne va pas condamner. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Ce qui fait la force de la piété, c'est la sainteté. C'est la repentance. C'est l'obéissance, pas légaliste, qui a détruit des églises. Moi, je ne supporterai plus le légalisme dans l'église. Il y en a eu. Je sais que de temps en temps, il y en a qui arrivent avec leur légalisme. Je ne le supporterai plus. Je ne le supporterai plus. Ni le laxisme, d'ailleurs. Je me ferai un devoir de combattre ces choses. Il n'y a rien de plus stupide que le légalisme. Parce qu'en plus, ça laisse paraître des gens super spirituels. Je ne le supporterai plus. Quand on n'a que l'apparence de la piété, on ne change pas. On ne change pas. On était égoïste. On est égoïste. On était avare. On est chrétien, on reste avare. Et je peux continuer. Et vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est pour ça que la Bible parle des chrétiens qui sont égoïstes, méchants, fanfarons, querelleurs. Voilà, c'est des gens qui ne... Ou alors, ils ne sont pas nés de nouveau. Ça arrive que des chrétiens ne soient pas nés de nouveau. J'ai hélas dû le leur dire plusieurs fois ici. Vous avez accepté Jésus-Christ, mais vous n'êtes pas nés de nouveau. Ça, c'est clair. Ils étaient rebelles. Comme ils sont rebelles, mais ils le sont encore plus. Il y a des chrétiens, les gilets jaunes, ça existe. On fait des choix. Ils s'irritent, et comme je le disais tout à l'heure, ils justifient. Ils justifient. Alors vous savez, c'est des choix que l'on fait. Alors on va prendre un exemple, c'est dans, je pense que je l'ai mis dans 1 Samuel. Regardez dans 1 Samuel, le comportement, alors que je ne me trompe pas, c'est 1 Samuel, chapitre 18. On va lire, alors... Vous pouvez méditer tous ces chapitres. Des fois, on me dit, je ne sais pas quoi lire. Eh bien, lisez 1 Samuel et vous allez voir combien David a eu besoin de la grâce de Dieu. Quand tout allait bien et quand tout allait mal. Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas quand tout va mal. La grâce de Dieu, c'est tout le temps qu'on en a besoin. C'est tous les jours. Si vous avez besoin de la grâce de Dieu que quand tout va mal, il y a un problème. 1 Samuel 18, bien sûr, au verset 5. David allait réussissait partout où l'envoyait Saül. Bon, mais c'était super, franchement, quand vous avez des généraux, des officiers qui vous font réussir. Mais lui, au verset 8, par rapport aux propos des gens, parce que les gens, vous savez, ils ne nous aident pas toujours. Mais enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Dieu avait dit de je ne sais plus quel roi, oui, quand il parlait à David pour son fils, et s'il n'écoute pas, je le châtierai avec la verge des hommes. Quand ça ne va pas, Dieu utilise des gens pour nous châtier souvent. David allait réussir, verset 8. Saül fut très irrité. Verset 9. Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite. Verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Verset 11. Saül se leva, disant lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Je ne sais pas si on est compte quand même. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David, et l'Éternel s'était retiré de lui. Alors on pourrait dire, ouais, mais Samuel, Saül, il n'a jamais bien marché. Mais regardez avec moi dans 1 Samuel, au chapitre 10. Il a passé des années où ça allait bien, des années. 1 Samuel, chapitre 10, regardez ce que Dieu fait. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il y ait un roi, mais Dieu cède à leur exigence, parce qu'ils veulent un roi, ils veulent être comme le monde. Bon, ce n'est pas le sujet. Mais enfin, ils cèdent et Dieu leur donne un roi qui va correspondre. 1 Samuel, chapitre 10, verset 9. Dès que Saül tournait le dos pour se séparer de Samuel, bon, c'est vrai que quand on est en contact avec un véritable homme de Dieu, on peut quand même faire des progrès. Vous avez de véritables chrétiens. Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Regardez bien, frères et sœurs, ça s'appelle la conversion, ça. Dieu lui donne un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Regardez bien, verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit donc à Saül, et il prophétisa au milieu d'eux. Amen. Saül a été un homme nouveau. Dieu lui a donné un autre cœur. Il a même été amené, à cause de l'obéissance au départ, à pouvoir prophétiser. Vous vous rendez compte? Mais son cœur s'est endurci à cause de la jalousie. La dernière fois, j'ai oublié de vous donner la définition de la jalousie. Je vous la donne aujourd'hui. Jalousie. Sentiment, dans le dictionnaire, Robert, hein, il y a le dictionnaire biblique, mais c'est pareil. Sentiment mauvais qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder exclusivement. La jalousie, eh bien voilà, quelqu'un a quelque chose, je ne l'ai pas, mais ça m'énerve. Ça m'irrite. L'irritation, je pense que ce n'est pas un gros, gros péché. Si ça reste, si c'est vite réglé, si vous vous mettez en colère, si vous irritez, dit le Seigneur, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. J'ai eu une mauvaise réaction, tiens, ça ne m'a pas plu, j'aurais préféré qu'on me choisisse à moi, on m'a encore oublié. Oh, bon, Seigneur, pardon, 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 pardon. Mais l'irritation, Saül n'a pas voulu la régler. Et vous regardez en crescendo, parce que vous allez me dire, ah, t'inquiète pas, mais tout le monde s'irrite. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont super encourageants. Ils vont vous maintenir dans la légèreté, parce qu'ils sont légers. Ils vont vous maintenir dans le superficiel. Tu ne vas pas au culte, ben, c'est pas grave, tu ne vas pas devenir légaliste. Quand on en arrive à dire des âneries pareilles, laissez-moi vous dire qu'on n'est pas loin de rétrograder. Moi, je crois que si dans l'Ancien Testament, il y avait le jour du sabbat qui était un jour particulier pour servir Dieu, dans le Nouveau Testament, j'aimerais vous dire que c'est tous les jours qu'on obéit au Seigneur. Tous les jours. Et que le jour du Seigneur, on devrait peut-être y réfléchir. Mes frères et sœurs, nous ne nous rendons pas compte à quel point beaucoup de chrétiens se mettent à résister à Dieu. Ils sont crevés, ils ne vont pas au culte. Mais l'après-midi, c'est bizarre comme le Seigneur les a relevés pour aller au Cinoche. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je le dis avec un peu de cynisme, mais dites-moi que je mens. Dites-moi que j'exagère. Dites-moi-le. Je pouvais me le dire, vous pouvez vous lever. Vraiment, je le prendrai bien. Dites-moi que j'exagère. Les œuvres de la chair, elles sont évidentes. Si nous sommes charnels, écoutez-moi bien, frères et sœurs, je me mets avec, je l'ai été. De temps en temps, je dois avoir des réminiscences, tout son an. Si je suis charnel, si je me reconnais dans un de ces comportements, je ne dis pas que ça peut arriver une fois, justement, d'avoir une mauvaise réaction, mais instantanément, je crois qu'on a le réflexe de demander pardon à la personne. Je te demande pardon. Oui ou non? Mes frères et sœurs, si nous ne commençons pas par le début, nous allons avoir du mal à arriver à la fin. Voyez-moi. Les œuvres de la chair sont évidentes. Donc, si je me reconnais charnel, alors ne dramatisez pas tout non plus. Mais si je me reconnais quand même charnel, si je suis querelleur, si je suis toujours en train de me disputer avec mon conjoint, avec mes enfants, en train toujours d'irriter mes enfants, etc., dans ce qu'on a lu, eh bien que je sois honnête. Parce que celui qui porte du fruit, Jésus a dit que c'était celui qui écoutait la parole avec un cœur honnête. Oui ou non? Et bon. Il n'y a pas des gens avec un cœur honnête et des gens avec un cœur malhonnête. Il n'y a pas des gens avec un cœur dur comme une pierre et d'autres avec des épines. Non, c'est nous qui, par l'Esprit de Dieu, par l'obéissance, apprenons à devenir honnêtes. Seigneur, ce matin, oui, j'accepte l'idée. J'accepte le fait. J'accepte le fait que je suis dans le péché. Je suis un homme charnel. Je ne suis pas honnête avec toi. Je ne suis pas honnête avec les gens de l'église. Je ne suis pas honnête avec mes enfants. Je ne suis pas honnête avec ma femme. Je suis tout le temps en train de justifier mon caractère, bien sûr, en disant, mais toi, si tu... Pourquoi vous voulez changer les autres? Pourquoi vous voulez changer votre femme ou votre mari? Quand vous n'arrivez même pas à vous changer vous-même. Mais combien de jeunes m'ont dit, ah, monsieur Go, quand je leur disais, faites gaffe, ne vous mariez pas avec un inconverti. Et tout d'un coup, la foi jaillissait dans le cœur de ces gens. Monsieur Go, je le changerai. Mais c'est bien. Je la changerai. Je l'amènerai à la conversion. Je dis, mais c'est bien. Vous êtes sûr? Oui. Mais hélas, voyez comment on peut être malhonnête. Soyons honnêtes, on a du mal à se changer soi-même, que nous ne nous imaginions pas un instant que nous allons changer les autres. Franchement, je ne demande pas beaucoup aujourd'hui, mais au moins que nous ayons cette honnêteté. Ne vous occupez pas de changer les autres. Que t'importent les autres? Toi, suis-moi, ne cherche pas. Bien sûr que par notre témoignage vécu, pas nos blablabla, par notre témoignage vécu, on amène une bénédiction sur les autres, des paroles de grâce sur les autres, des encouragements, etc. etc. Mais c'est les gens qui changent. Et si votre mari ne veut pas changer, s'il ne veut pas venir à l'église, s'il ne veut pas ci, s'il ne veut pas là, s'il ne veut pas obéir, s'il veut rester grossier, s'il veut rester avec sa bouteille de vin, etc., ben laissez-le. Mais vous, soyez un témoin pour le Seigneur. Soyez un témoin. Vous ne changerez pas les gens. C'est le Saint-Esprit qui les changera s'ils acceptent d'être convaincus de péché, de justice et de jugement. L'apparence de la piété, c'est compliqué. Parce qu'on peut ne même plus se rendre compte qu'on est dans l'apparence de la piété. Regardez le cinquième cas. Vous savez que j'ai fait une étude il y a 5 ou 6 ans sur les pleurs et les grincements de dents. Dans les pleurs et les grincements de dents, il y a 7 textes et 7 contextes où Jésus en parle. C'est chaque fois pour des chrétiens. Ce n'est pas pour les inconvertis, c'est les chrétiens qui deviendront, qui sont ces vierges folles, parce qu'ils n'ont pas veillé. Alors le cinquième terrain, c'est dans Matthieu 24. Regardez. Matthieu 24. Alors. Regardez, c'est le cinquième texte où Jésus parle des pleurs et des mincements de dents. C'est lié à l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est terrible. Je vais vous donner la définition de l'hypocrisie. Parce qu'hélas, il n'y a pas que les pharisiens qui sont des hypocrites. Jésus a combattu les pharisiens d'une façon terrible. Hein, pour leur bien, pas pour se justifier. Matthieu 24, versets 45 à 51. On le lit lentement pour que chacun réalise ce que le Seigneur Jésus veut enseigner. C'est pour des chrétiens qui ne vont pas bien, qui ne seront pas prêts quand Jésus va revenir. Alors si quelqu'un est dans ce cas, lisons le texte sérieusement. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Donc ce que le Seigneur Jésus met en avant pour être prêt, c'est la fidélité et la prudence. Que son maître a établi sur ses jambes, bon, c'est vrai qu'il fait allusion à tous ceux qui ont la charge de donner la nourriture au temps convenable. Ça fait quand même allusion au pasteur, c'est sûr. Mais c'est aussi pour tout le monde. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Toujours allusion à la récompense par rapport à la fidélité. Mais si c'est un serviteur, si c'est un méchant serviteur, donc il y a des méchants serviteurs. Voilà. Il y a des méchants animateurs à l'école du dimanche, il y a des méchants pasteurs, etc. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Alors regardez bien. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cinquième texte où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents. Le problème, c'est l'hypocrisie, qui a commencé avec de la lassitude. Mon maître tarde à venir. S'il se met à battre, dans le grec, moi je ne suis pas dans ce domaine, mais c'est facile aujourd'hui de savoir la définition d'un mot. Ça veut dire frapper verbalement avec la langue. Vous pouvez taper quelqu'un sans le toucher. Et dans la famille, combien c'est facile quand on connaît bien son conjoint, les mots, parce qu'on a quand même examiné le conjoint. C'est vrai ou c'est pas vrai ou je radote? Est-ce que c'est vrai qu'on sait les mots pour blesser la personne qu'on connaît bien? Oui ou non? je ne suis pas content, ça ne s'est pas passé comme je voulais, le gars il n'est pas content, le maître tarde à venir, comme si c'était à nous à fixer le jour de l'enlèvement parce que ça nous conviendrait. Ouais, franchement, sans commentaire. Il va, on peut battre les gens, on peut battre n'importe qui, avec une réflexion, avec une grosse vanne. Le mal qu'on peut faire. Les hypocrites. Je vous donne la définition de l'hypocrisie, pour qu'on comprenne bien que ça peut nous arriver. Alors, attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables. Je répète. Attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables. C'est-à-dire, ben, je fais le beau devant les autres, mais à la maison, je suis pénible. Voilà, c'est ça que ça veut dire, ou ailleurs. Deuxième définition. Affecter des sentiments, des affections, des vertus qu'on n'a pas. Voilà, je fais semblant d'être patient, alors que je ne le suis pas, etc. Action. Parole destinée à tromper par des sentiments. Ça, c'est la définition de l'hypocrisie. Ça revient 18 fois dans le Nouveau Testament, l'hypocrisie. S'il frappe ses compagnons, les compagnons, la définition du compagnon. Je pense que c'est bien pour vous aider à prendre le dictionnaire. Compagnon, celui avec qui je partage le pain. Et de la même définition, celui, écoutez bien, qui partage la vie de quelqu'un comme époux ou épouse. Donc, c'est les personnes les plus proches. Mon compagnon, c'est mon épouse et mes enfants. À l'église, ce sont les personnes avec qui j'ai le plus de contact, etc., ou au travail. Celui avec qui je partage le pain. Celui avec qui je partage ma vie. Ma femme, c'est ma compagne, on le dit bien sûr. Un compagnon, je mange le pain avec. Si vous mangez le pain avec quelqu'un, c'est votre compagnon. Il se met à battre son compagnon. Il se met à battre sa compagne. Mes frères et sœurs, je crois que dans la maison du Seigneur, on devrait quand même se poser des questions. On l'a entendu, on a tout. Ah bon, ce pasteur, mais il était si gentil à l'église. Un pasteur, il ne faut pas qu'il soit gentil. Pasteur, ça ne sert à rien qu'il soit gentil. Un pasteur, il faut qu'il soit spirituel. Vous voulez quoi, un pasteur gentil? Je me rappelle, ma mère, elle était dans une église. Elle me disait souvent, pas Gérard, je ne comprends pas. Pourtant, un pasteur, il est gentil. J'ai dit, mais maman, il ne faut pas qu'il soit gentil, le pasteur. Il faut qu'il soit spirituel. Ah, t'as bien raison, on me disait. Et puis, 6 mois après, recommencer. Bon, c'est pas grave, c'était ma maman. Voilà. C'est elle qui m'a éduqué. Voilà. Donc, vous voyez, si ça ne va pas, c'est ta faute. Vous savez faire... Alors, je vais terminer. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je voudrais qu'on ait 10 minutes. C'est que 11h05. Je voudrais qu'on ait du temps pour comprendre une pensée, pour régler le problème. Il y a des maladresses. On a des maladresses. Je commets une maladresse. Normalement, si j'aime Jésus, si j'aime la personne, je me corrige. D'accord? De suite. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Écoutez bien, frères et sœurs, ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est archi important. Des fausses doctrines rentrent dans nos églises pour enseigner l'inverse de ça. Et d'ailleurs, peut-être certains, vous allez vous y retrouver. Des gens déjà ayant accepté ces fausses doctrines. Il y a le péché involontaire, si vous avez lu le Lévitique, votre livre préféré. Si vous avez lu le Lévitique, vous avez remarqué qu'il y a des sacrifices pour le péché volontaire et pour le péché involontaire. C'est pas pareil. Dans Hébreux 10, au verset 26, il parle du péché volontaire. Péché volontaire, c'est des choix, ça. Je choisis de mentir. Je suis chrétien, mais ouais, je mens. Mais de toute façon, c'est comme ça. Je suis obligé à mon boulot, on m'oblige à mentir. Eh bien, je mens. Quelqu'un me l'a dit, si. Cette personne est partie, bien sûr. Le secret professionnel, monsieur. Il y a bon, le secret professionnel. Ça m'est... Faites ça en commentaire. Regardez avec moi dans Hébreu. Alors, ce que je vais expliquer, attendez de que je vous ai tout dit sur ce sujet pour réagir. Dans Hébreu, chapitre 10, du verset 26 au verset 31, il est parlé du péché volontaire. Je vous demande, s'il vous plaît, de noter sur un papier le texte pour le méditer. Parce que quelqu'un pourrait dire, ah, mais moi, j'ai pas de crayon, j'ai pas de quoi noter. Répondez-moi honnêtement. Si je vous disais, écoutez les frères, j'ai reçu les numéros de la Loterie Nationale pour la semaine. Est-ce que vous voulez les noter? Sincèrement, De grosses sommes, on est dans des millions là. Je vous donne, est-ce que vous vous débrouilleriez pour demander le crayon à quelqu'un? Et si vous n'avez pas de papier, même le marquer sur la main, t'inquiète, même sur la chemise, ça m'est égal. Oui ou non? Est-ce que vous ne le ferez pas, certains? J'ai pas de papier, j'ai pas de crayon, tant pis sur la main. Oui ou non? Ben oui. Je pense que ce qu'on lit est plus important que la loterie, croyez-moi. Hébreux chapitre 10, verset 26. Au verset 31, c'est un texte très 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 difficile. Mais s'il est dans la Bible, c'est qu'on en a besoin. Car, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. À moins, bien sûr, qu'il y ait une profonde repentance, bien sûr, soyons sérieux. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Alors attention, on va bien lire. Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane, donc ça n'a pas de prix, le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », ou encore « Le Seigneur jugera son peuple », et le verset 31, qui devrait faire flipper franchement tous les chrétiens qui n'ont pas de communion avec Dieu. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Les chrétiens qui vont bien, ce n'est pas une chose terrible, c'est une bénédiction de tomber entre les mains du Dieu vivant. Si vous avez une véritable communion avec Dieu, vous pouvez vous laisser aller et tomber dans ses bras. Si vous jouez la comédie, si nous jouons la comédie, mais je le sais. Moi, Dieu m'a repris. Je vous avais raconté la fois où j'avais demandé à Dieu, montre-moi si je suis un bon pasteur. Parce que je me levais à 5h30 et le pasteur que j'avais, je lui ai dit, chaque fois qu'il me voit, il me demande pardon, parce que je lui ai tellement rappelé. De 5h30 du matin à 11h du soir, je travaillais pour l'église. Et bien sûr, les gens disent, oh, ce jeune pasteur, qu'est-ce qu'il est consacré? Oh, ce jeune pasteur, qu'est-ce qu'il est bien? Oh, il ne ménage pas son temps, etc., etc. Mais ma femme, elle ne me voyait jamais. Elle m'aurait dit, tu pourrais aller chercher la louche pour la soupe, je ne saurais même pas où elle était, la louche. C'était bien, hein, vous avez vu? Et un jour, j'ai été honnête. J'ai dit, Seigneur, montre-moi si je suis un bon pasteur. Et j'étais à une pastorale, il y avait un pasteur de passage, qui a dit, je vais dire aux pasteurs si ce sont de bons pasteurs. Ah, je dis, bon, c'est bien. Je crois que j'ai plus pleuré que le jour de ma conversion. Dieu m'avait répondu, j'étais un mauvais pasteur. J'étais fou de joie. Dieu m'avait parlé. Quelques années après, ça a été par rapport à notre problème avec mon épouse, que je négligeais. Le péché, il faut le régler. C'est une chose terrible de ne pas régler le péché. Alors bien sûr, quelqu'un va me dire, mais monsieur Gou, écoutez-moi bien. Quelqu'un va dire, parce que je sais comment ça marche, mais monsieur Gou, ne prenez pas trop la chose à cœur. Monsieur Gou, ne vous mettez pas la pression. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est écrit ça? Comment c'est écrit? Qu'est-ce qu'il y a juste avant? Parce que c'est pas une phrase, ça. C'est la fin d'une phrase. On peut le lire. C'est juste après, dans 1 Jean. Regardez bien, mes frères et sœurs, soyons honnêtes. Nous allons lire cet épître, 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7. Et vous verrez dans quel contexte est écrite cette promesse qu'on a séparée de tout le texte. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Oui, mais regardez. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alors regardez bien la phrase. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais, regardez bien, frère, parce que je suis sûr que les chrétiens, ils ne font pas attention à ce verset. Mais, Si, il y a toujours des conditions, vous le savez, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et, virgule, et, dont la conséquence de la communion avec Dieu fait que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alléluia. Je vis dans la communion, j'obéis au Seigneur, je suis désagréable avec un frère. Oh là, j'ai été désagréable, je me suis disputé. C'est quoi les disputes? Il faudrait voir ça aussi. Tiens, je me suis disputé avec Jérôme, on a eu un entretien, etc. Je pense que je lui ai fait de la peine, on s'est quitté d'une manière un petit peu froide. Jérôme, je vous demande pardon pour la discussion qu'on a eue. Ça n'annule pas la communion ni avec Dieu ni avec le frère. Est-ce que vous comprenez? Parce que je suis sensible et que de suite, je ne partirai pas de la maison. Je me suis attrapé avec mon épouse. Je te demande pardon, chérie. Je te demande pardon pour mon impatience. On n'est pas dans le péché, là. On n'est pas dans le péché. Là, on est dans des erreurs, des maladresses, des manquements, des faiblesses. C'est très, très bien expliqué dans la Bible, cette affaire de manquement, de faiblesse, de maladresse. Ou du péché involontaire que l'on commet, j'espère, le moins possible, bien sûr. Et puis le péché volontaire. Et quand on s'amuse à être irritable, quand on est tout le temps en colère ou jaloux, tout le temps en train de s'énerver et qu'on ne s'en rend même plus compte, mais c'est la faute des autres, ils me saoulent. Mes frères et sœurs, on l'entend de plus en plus. Laissez-moi vous dire que le sang de Jésus-Christ ne vous purifie pas. Si vous vivez dans le péché, le sang de Jésus ne vous purifiera pas. Si vous vivez dans le péché, il faut passer par une profonde repentance, en faire une affaire sérieuse, mais vraiment sérieuse, frères et sœurs. Si vous vous reconnaissez dans ces caractères des œuvres de la chair, vous devez y renoncer. Renoncez-y, je renonce, aide-moi, demandez de l'aide aux gens que vous aimez. Il y a quand même des gens que vous aimez et des gens qui vous aiment. Vous pouvez leur dire, mais priez pour moi. Moi, je vous demande de prier pour moi. Vous croyez que moi, j'ai envie de faire des beaux sermons? Moi, j'ai envie que ça se passe bien quand je vais passer devant Dieu. Parce que vous me voyez comme un pasteur. Mais moi, quand je me regarde dans la glace, je me vois comme un chrétien. Je ne vois pas écrit sur le front pasteur. Je suis un chrétien d'abord. Et même si j'ai la responsabilité de prêcher, ce qui est, j'avoue, une responsabilité, je suis un chrétien qui aura des comptes à rendre à Dieu par rapport à mon ministère. Et je dois bien vous expliquer que le péché volontaire, ça ne passera pas. Et que si chaque dimanche, vous utilisez la Sainte-Sainte, bon, je te demande pardon, Seigneur, bon, j'ai passé une mauvaise semaine, j'ai encore été méchant, désagréable, mais Seigneur, tu le sais, pardon. Si franchement, votre vie avec Dieu consiste que le dimanche à utiliser la Sainte-Sainte pour essayer de rattraper la communion avec Dieu, franchement, je vous plains. Je vous plains vraiment. Le péché volontaire, c'est grave. Le péché involontaire, c'est pas grave. Vous pouvez commettre un mensonge. Moi, ça m'est arrivé 5 ou 6 fois. J'en ai honte. Je vais prêcher en me tournant. J'en ai honte. J'ai menti plusieurs fois à ma femme. C'est beau, hein, votre pasteur. Je ne sais pas si vous me garderez, mais tant pis, je vous le dis. En 37 ans de mariage, ça fait beaucoup, non? J'ai menti 5 ou 6 fois à ma femme. Je lui ai demandé pardon, bien sûr. Bien sûr que je lui ai demandé pardon. Alors là, je vous pose une question. Soyez honnête. Attends, et si vous ne savez pas, répondez pas. Est-ce que je suis un menteur? Est-ce que je pratique le mensonge? Vous comprenez la différence? Alors n'utilisez pas cette partie de la prédication pour tous les 3 ans faire un mensonge. Mes frères et sœurs, si vous commettez un mensonge, la Bible dit que là, le sang de Jésus, juste après, il est dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Ça c'est clair. Et que Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner. Que si on a commis un péché, il est notre avocat. Jésus, si on vit dans la communion, sera toujours notre avocat. Donc je commets un péché, je le répare, mais ce n'est pas volontaire. Mais il y a celui, et il y a les chrétiens, et écoutez-moi bien si vous en êtes dedans, parce que moi, je suis dédouané de ma responsabilité devant Dieu. Si vous faites partie de ces gens qui volontairement cautionnent l'irritation, la jalousie, les disputes, les murmures, les querelles, la débauche et tout le reste, vous n'êtes pas prêt à rencontrer le Seigneur. Si vous commettez un mensonge et que vous n'avez pas fait gaffe, moi l'autre fois j'ai dit une bêtise. Vous voyez, mais vous savez qu'on est très très vite charnel. Et il y avait 2 pasteurs, j'ai dit un truc que je n'aurais pas dû dire. Je vais les voir à la prochaine pastorale et leur demander pardon. Vous avez dit, mais tu vas demander pardon pour ça? Eh bien oui. Le péché volontaire, c'est grave. On va terminer avec ce texte, j'aurais aimé en dire un peu plus, comment avoir cette victoire, mais quand même. Regardez, dans l'Apocalypse, finit avec des avertissements d'une sévérité, bien sûr, et des encouragements, et des promesses, et des invitations. Le dernier chapitre, bien sûr, termine comme un feu d'artifice. C'est évident, c'est tellement beau. Il y a des promesses, des invitations, etc., mais il y a des avertissements. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on en a besoin. Et regardez comment le Seigneur Jésus, le Seigneur lui-même, de sa propre bouche, inspirant l'apôtre Jean, indique ce qui va arriver aux gens qui vivent dans le mensonge ou qui pratiquent le péché. Apocalypse 21, verset 8. Mes frères et sœurs, il faut que nous soyons sérieux. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, alors prenez le dictionnaire avec vos enfants, faites-le. Un lâche, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider pour Dieu. C'est ça, un lâche. Il n'y a pas des gens qui naissent lâches et d'autres qui naissent courageux. La lâcheté, je n'arrive pas à prendre position pour Dieu. Je me souviens, je vous l'ai dit, il y avait un monsieur qui était venu me voir, il est venu pendant 10 ans, et un jour, il a eu l'idée de me dire, « Monsieur Gros, qu'est-ce que vous pensez de moi ?» J'ai dit, « Vous voulez que je vous le dise vraiment ? Vous êtes un lâche. » Il était furieux. Ça faisait 10 ans qu'il vient, il n'arrive pas à se décider pour le Seigneur. Je lui dis, mais vous êtes un lâche, comment voulez-vous que je vous le dise ? Un lâche, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Ce matin, vous écoutez la parole de Dieu. Je me suis appliqué, franchement, à vous la donner. D'une manière sévère et tendre. Parce que quand même, quand Paul parle des chrétiens, il est en prison, il est à Philippe. Et c'est à Philippe qu'il est. Il est dans la prison. Et, non, il écrit aux chrétiens de Philippe. Il dit, mais il y en a qui crucifie le Seigneur Jésus-Christ. Je le dis encore en pleurant. Il parle des chrétiens qui vivent dans le péché. Il dit, mais je le dis encore en pleurant. Il se réjouit d'être en prison et il pleure pour les chrétiens qui sont dans le péché. La lâcheté, l'incrédulité. L'incrédulité, c'est pareil, c'est un choix. Moi, je ne crois pas, tout ça, c'est des bêtises, ça ne tient pas debout. Eh bien, reste incrédule. Ce n'est pas moi qui vais vous dire quoi que ce soit. L'incrédulité, le doute, ce n'est pas pareil. L'incrédulité, c'est un choix. Je choisis de dire, c'est pas vrai, Dieu n'existe pas, tout ça, ce gars, il est fou, il raconte n'importe quoi. Mais pensez-le. Mais quand vous passerez devant Dieu, moi, vous ne pourrez pas me dire que je ne vous ai pas demandé de vous repentir pour avoir la vie éternelle. Les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'Adam de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne, voyez, alors regardez bien les verbes, qui se livre, c'est-à-dire que c'est un péché volontaire, à l'abomination et au mensonge. Et encore mieux précisé, dans le dernier avertissement de toute la Bible, je pense que c'est super sérieux, c'est le dernier avertissement de Dieu. Apocalypse 22, verset 15, dehors les chiens, c'est-à-dire les rétrogrades officiels, c'est triste à dire, mais les vrais rétrogrades, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et, regardez bien, quiconque, voilà, là vraiment c'est clair, quiconque aime et pratique le mensonge. Je mens pas une fois de temps en temps, j'ai menti à Jérôme, j'ai menti à mon épouse, de suite un texto, je te demande pardon, je t'ai dit ça, c'est pas vrai, excuse-moi pour ma bêtise, c'est réglé. J'ai commis un mensonge, j'ai commis une erreur. Mais là, c'est des chrétiens qui aiment le mensonge. Ça leur rend service de mentir. Ça leur rend service. Eh bien, continuez à aimer le mensonge. Continuez à pratiquer le mensonge, mais vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et même si toute votre vie, vous excusez-moi, je vais dire un mot, je le dis, déblatérez toute votre vie dans vos prières, le sang de Jésus me purifie. Non, ce n'est pas vrai. Le sang de Jésus purifie les chrétiens. Je vais renoncer à ça, c'est pas bien. Je le savais, mais je vais y renoncer. Je vais y renoncer. Alors j'aurais aimé parler. J'avais quelques exemples à partager. On le verra prochainement si c'est utile, si le Seigneur me le met à cœur. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants, d'une façon devant le Seigneur. Le Seigneur, vous savez que Madame Bourdel, dans sa prière, rappelait ce matin ou dans la prophétie, elle rappelait que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir le cœur de ceux qui sont tout entiers à Dieu. Vous vous rappelez, Madame Bourdel, que vous avez fait cette prière ? Dieu étend ses regards par toute la terre pour soutenir le cœur de ceux qui sont tout entiers. Est-ce que votre cœur est entier pour Dieu ce matin ? Ne me répondez pas à moi, répondez-lui à lui. Si votre cœur est entier, si votre cœur est honnête, si vous dites, mais je vais reprendre tous ces textes, je les ai lus, mais je ne les ai jamais médités. Alors moi, je vous ai dit, la magie, elle est dans les églises.
On va à l'imposition des mains. Allez, priez pour moi. J'ai un sale caractère. Priez pour moi.
Non. Ça ne marchera pas comme ça. Renoncez à ces choses. Ce matin, Seigneur, tu m'as interpellé. Et soyons honnêtes, vous et moi. Et ne pensez pas aux autres. En disant, vous pourrez celui-là. Mais c'était bien cette prédication. Eh bien, c'est bien ce matin. Mon mari était là, ça y est, ça a dû lui faire du bien. Écoutez-moi. Ne pensez à personne d'autre qu'à vous. S'il vous plaît, de grâce. Même si, bien sûr, vous savez très bien que ça peut correspondre pour quelqu'un. Nous sommes devant Dieu, on ne va pas se lever, on ne va pas faire d'appel. On va juste lui répondre avec quelques mots. Comme Anne, dans le temple, elle avait de l'amertume. Mais je vous ferai remarquer que quand elle a répondu à Élie, qui avait un discernement extraordinaire, elle a répondu avec respect. Et je pense que quand on est spirituel, même si on a de l'amertume parce qu'on est dans l'épreuve, on peut mettre tout ça au pied du Seigneur. Anne, elle n'a pas parlé, elle n'a rien dit. Elle a parlé dans son cœur. Est-ce que quelqu'un ce matin croit de tout son cœur que s'il fait une prière de ce type-là, honnêtement, qu'elle dure 30 secondes ou que chez vous elle dure une heure, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive de prier 30 secondes, ça m'arrive de prier 3 heures. Mais le problème, il n'est pas là. Ce n'est pas la durée qui déterminera la bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un, honnêtement, qui dit « Seigneur, mais je suis en train d'être un aveugle. Ça, c'est grave. Est-ce qu'on peut prier ?» Simplement, avec nos mots. Dis un mot, a dit un homme qui n'était même pas converti. En tous les cas, il n'était pas encore converti. Dis un mot. Oui, il avait compris la puissance de Jésus-Christ. Dis un mot. Et ce n'était même pas pour lui. Et mon serviteur sera guéri. Seigneur, tu vois ma repentance. Si tu as besoin de te repentir, mon frère, mais repens-toi. Pas dites, oh, je regrette, c'est vrai, il a raison, c'est vrai. Mais enfin, bon, écoutez, s'il était à ma place. Si vous dites ça, vous avez choisi la lâcheté. On va terminer en priant. Et on va rechanter ce petit cœur. Et on va chanter celui « Je tends les mains vers Jésus qui vient ». On a chanté tout à l'heure le vieux cantique 55 dans les ailes de la foi. « Je vis et je règne avec lui ». Qu'est-ce que vous me diriez si j'étais tout le temps dans le comportement charnel et que je chante ça? Vous me diriez « Monsieur, vous êtes vraiment un sacré hypocrite ». On règne avec le Seigneur quand on ne marche pas dans le péché. Notre Père, tu savais qui viendrait ce matin. Tu savais qui serait là. Et tu sais pertinemment tous ceux qui, dans les pays francophones, écouteront cette exhortation. Seigneur, nous ne le voulons pas faire partie de ces lâches incrédules, hypocrites, qui connaîtront les pleurs lorsque tu vas revenir. Nous voulons faire partie de cette épouse fidèle, prudente, intelligente, qui se prépare à te rencontrer. Seigneur, donne la grâce à tous ceux qui s'humilient vraiment dans leur cœur. À tous ceux qui te demandent de l'aide, tu libères, tu guéris, on l'a lu, tu brises les verrous, tu envoies ta parole et tu guéris. Que ton nom soit béni, Seigneur. Donne-nous ce sérieux, vraiment ce sérieux, pour être de ces hommes obéissants, qui ne frapperont pas nos compagnons, qui ne frapperont pas les gens que nous côtoyons, mais qui les béniront. Bénis tous les couples dans l'Église, tous les pères, toutes les mères, toutes les épouses, tous les maris, tous les enfants, que tous nous utilisions notre langue pour bénir. Parce que nous croyons que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.